Radio Campus Lille, il est 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue dans le 250e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors ce soir, émission un peu particulière puisque Alexandre n'a pas pu se rendre disponible et on n'a pas eu le temps de préparer l'émission pour faire un direct très approximatif. Du coup, je vais faire un direct approximativement tout seul. Et puis, désolé par avance pour les morceaux de musique, puisque je souffre d'un problème technique. Les Windows ne prend pas en charge les archives RGZ, donc du coup je ne peux pas lire les morceaux de musique qui étaient prévus pour cette émission, donc vous aurez un pot-pourri d'anciens morceaux de musique. Je vais faire avec les moyens du bord. Donc au programme de cette semaine, comme d'habitude, des actualités diverses et variées et une petite dégicalisation. Entrer un petit peu avec ces actualités. On va commencer par des actualités un petit peu légères, on va commencer par les actualités logicielles des deux semaines écoulées. Alors, j'ai tapé un petit peu plus large que d'habitude parce qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça ces dernières semaines. Donc tout d'abord, en sortie logicielle notable pour les gens qui suivent attentivement leur comptabilité personnelle sur ordinateur, il y a la sortie d'une nouvelle version de GNU Cash, l'un des principaux logiciels libres de gestion comptabilité personnelle, qui est aussi assez avancée. Il y a pas mal d'options, notamment pour les gens qui ont certaines fonctionnalités qui sont liées à de la finance, à de la gestion d'actions. Donc c'est de la comptabilité personnelle plus, mais ça, c'est assez utilisable quand même pour de la comptabilité assez basique. Donc n'hésitez pas à regarder, il me semble, de mémoire, c'est disponible sur Windows, macOS et Linux, c'est disponible dans la plupart des bonnes distributions Linux, et sur Windows, macOS, vous avez qu'à aller voir sur le site gnucache.org si vous êtes intéressé pour utiliser ce logiciel-là pour votre compta. Puis c'est toujours intéressant de voir ce genre de logiciel, ça peut aussi donner des idées pour s'organiser soi-même. Autre petite actualité des semaines écoulées, on a eu encore un petit truc autour de la souveraineté informatique en France. Alors la souveraineté informatique, il n'y a pas qu'en France qu'on en parle, évidemment. C'est un sujet assez sensible en ce moment avec les problèmes d'espionnage et autres. Et donc en juin dernier, alors je n'ai pas souvenir qu'on en avait parlé ici sur cette antenne, il y avait un appel à projet qui avait été fait pour créer une suite bureautique cloud souveraine. Donc déjà, ça, suite bureautique cloud souveraine, c'est bien méchant déjà, je trouve, comme appellation. Et donc pour faire ce projet, donc il y aura un budget, il y aura une aide en tout cas de 8 millions d'euros. C'est pas beaucoup pour faire pour donner une idée, pour développer vraiment complètement une suite bureautique, c'est non, ça passe pas. C'est sans déconner, il n'y a pas assez pour mener un projet comme ça. Alors c'était un appel à projet uniquement, donc derrière faut voir un petit peu ce qui va se développer. Il y a 3 lauréats qui ont été retenus pour ce projet-là. Alors j'adore, c'est des grands noms du logiciel libre et du respect de tout ce qui nous tient à cœur dans ces lauréats. Donc nous avons Interstice, donc qui édite une plateforme collaborative du même nom, et donc avec associé à lui, il y a BlueMind, il y a Seal, alors je ne connais pas, et Beldon Communication. Et donc on fait tout du souverain. Alors par contre, j'ai pas connaissance du fait qu'ils développent leur propre suite bureautique. Donc, va falloir me dire en quoi ça va être souverain. Alors, en l'occurrence, je crois que eux, la solution qu'ils vont proposer, ça va être probablement du Only Office. On en reparlera un petit peu juste après. Donc, il y a le projet aussi Collab Next. Donc, James Pott, qui est à la tête du projet Collab Next. Donc là aussi, avec plusieurs éditeurs associés, il y aura même une petite touche d'intelligence artificielle. Donc j'ai peur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mettre l'intelligence artificielle là-dedans. Et il y aura l'entreprise Clever Cloud qui va être associée à ça, et sinon il y a un troisième projet. Donc on en reparlera un peu plus tard. Maintenant, souverain ne veut pas dire libre, ni même open source, hein, clairement. Et j'ai des gros doutes sur la possibilité pour des gens de développer ce genre de produit. Alors, ce qu'ils vont sûrement devoir faire, parce que clairement, développer une suite bureautique intégralement, c'est je veux dire, moi j'ai déjà travaillé sur un traitement de texte, une entreprise ne va pas développer une suite bureautique. C'est pas vrai, personne aujourd'hui ne va développer une nouvelle suite bureautique. C'est pas possible. C'est un travail qui est bien trop important. Et du coup, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester soit se baser sur LibreOffice Online, qui a été plus ou moins caviardé par Collabora, parce qu'ils disent ben, on l'a développé, mais on nous paye pas pour le développer, donc au bout d'un moment, on va garder les développements pour nous. Donc soit LibreOffice Online, ça va être un peu compliqué, ils vont peut-être acheter des licences auprès de Collabora, qui sait, ça serait positif. Soit il va rester OnlyOffice. Alors OnlyOffice, qui a été créé par une entreprise basée en Russie. Donc la souveraineté, je ne l'ai pas trouvée encore. J'ai pas encore compris la logique hein, du on va faire de la suite bureautique souveraine. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc à suivre celle-là, ça va être rigolo, on en reparlera. Alors je ne sais pas si ça passera dans mon radar, parce que les appels à projets précédents, je crois, j'ai pas souvenir de les avoir vus passer si bien que ça. Et donc on verra dans quelques mois, lorsque le dernier projet sera trouvé. Ça va être assez intéressant. Ensuite, autre petite actualité, alors là, pas vraiment le logiciel, c'est au niveau de la gestion des données de l'État, donc ça concerne un petit peu le logiciel, puisque ben, ce genre de situation, ça impacterait notamment... alors là, c'est pas le cas, puisque les données sont déjà ouvertes, mais des projets comme OpenStreetMap sont impactés quand... On leur promet des données, enfin quand ils veulent accéder à des données de l'État et que les données ne sont pas accessibles. La DINUM, qui gère notamment donc l'ouverture des données publiques dans l'administration, va voir son budget amputé de 40%, celui de d'Etalab, c'est la mission Etalab de la DINUM qui elle est chargée de l'ouverture des données publiques, est plafonnée à du coup 500 000 euros. Parce que on limite les budgets. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, c'est pas grave les données ouvertes, hein, ça compte pas en France, on s'en fout, c'est pas très important. Donc, on va mettre le moins possible et puis c'est pas très grave. Donc, à voir, hein, ça va être intéressant. Et puis, pour finir avec une dernière vraie nouvelle logicielle pour le coup, le projet Fedora, alors j'hésitais à le mettre entre logiciel et sécurité, celle-là d'actualité. Le projet Fedora, donc qui est l'une des principales distributions Linux, a l'intention d'activer le chiffrement par défaut sur les systèmes Linux prochainement. Ou alors, en tout cas, de l'encourager fortement. Mais là, vraiment, l'orientation, c'est plutôt chiffré de base. Et... Alors la voie qu'ils prennent pour faire ça est assez controversée, on va dire, puisque leur objectif c'est d'utiliser pour ça une puce Microsoft l'a rendue obligatoire. Donc c'est obligé, vous l'avez dans votre ordinateur si votre ordinateur est compatible Windows. La puce c'est le TPM, donc le Trust Platform Module, qui est une petite puce sur votre ordinateur qui permet de chiffrer et déchiffrer des données. Alors le but, c'est pas que tout le disque dur soit chiffré avec cette puce. Cette puce va déchiffrer la clé qui permet derrière au processeur de déchiffrer l'ensemble du disque dur. Mais le défaut, enfin il y a plusieurs défauts. On va dire les défauts. Le principal défaut que je vois moi à cette solution, imaginons demain, vous renversez un verre d'eau sur votre ordinateur portable, la carte mère est cramée. Mais par contre, le disque dur est encore intact. Et bien, comme la carte mère est cramée et que la puce est cramée, si vous n'avez pas de clé de secours pour déchiffrer le disque dur, vous avez perdu. Vous n'avez pas accès à vos données. Vous ne pouvez rien faire. Ce qui est assez gênant. Autre défaut, si vous étiez amené des maisons, mettons, à vous faire voler votre ordinateur, ben, le chiffrement, il sert à quoi? Puisque l'ordinateur, ben, on peut déchiffrer tel quel, puisque les données sont accessibles, et puis voilà. Il n'y a pas de protection, en fait. Il n'y a pas de protection parce que, tout simplement, la protection apportée par le chiffrement, c'est d'avoir une passe-phrase, d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur à la machine pour accéder aux données. Là, c'est pas extérieur à la machine, vu que c'est dans la machine. Donc, j'avoue, je suis assez sceptique quant à cette sécurité de la part de que ce soit de Fedora ou même de Microsoft. Microsoft qui met ça en avant avec de mémoire, leur technologie s'appelle BitLocker. Alors, eux aussi, ils disent, oui, attention, il faut bien avoir une clé de secours. Je connais des gens qui ont eu des machines chiffrées avec BitLocker et qui n'avaient pas de clé de secours parce que la machine a été vendue préinstallée comme ça et ils n'ont pas été mis au courant qu'il fallait noter une clé. Et j'ai peur que sur Fedora, du coup, on s'oriente un peu vers la même chose. Ça, j'avoue, je ne suis pas super rassuré par rapport à tout ça. Donc à suivre, on en reparlera sûrement dans cette émission. Surtout qu'il y a d'autres débats en cours aussi sur est-ce qu'il est réellement utile de chiffrer tout le disque dur et de chiffrer le disque du système notamment, ou est-ce qu'il ne faudrait pas chiffrer uniquement les données personnelles. Il y a tout un ensemble de débats là-dessus. Je pense qu'à l'occasion, il y aura une déclaration qui portera sur ce sujet. Et donc, c'était tout pour ces brèves logiciels. On va se faire un premier morceau de musique. On va écouter... Alors, du coup, je reprends dans des vieilles émissions. Hein. Donc, là, on va se réécouter un morceau. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas écouté, il me semble. On va écouter Space Invaders de Pornophonic. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Toujours sur Radio Campus 106,6, la lumière terrestre et campuslille.com.
Can you take me home? Take me home. Space invaders. I will never gonna shoot you. can you take me home?
C'était Space Invaders de Pornophonique, un classique de cette émission, toujours sur Radio Campus 106.6, vous écoutez Codegnou. C'est la deuxième partie de l'actualité, on va parler sécurité et vie privée. Et on ne parle pas souvent de cette forme de sécurité, mais aujourd'hui on va parler un petit peu de sécurité pour le coup d'un bien physique. On va pas parler de sécurité, on va parler de sécurité informatique, mais qui a un impact un peu plus important. On va parler de la sécurité de certaines voitures, alors en particulier des voitures modernes. Et ça va être l'occasion de parler de sécurité informatique de manière plus générale. Donc, il y a un spécialiste en sécurité informatique qui s'est fait voler sa voiture. Il avait remarqué, les semaines qui ont précédé le vol de sa voiture, il avait remarqué que des petits malins s'étaient amusés à démonter au niveau de son pare-choc au niveau du phare. Niveau du phare avant droit ou gauche, je sais plus. Et puis, merci, c'est bien, ça m'a salopé la peinture, ça a abîmé un peu le plastique et tout. C'est vraiment des gros cons, ils ont que ça à faire d'aller vandaliser la voiture. Et en fait, c'était le début de la tentative de vol de sa voiture. Mais il n'était pas au courant. Il s'en était pas rendu compte tout de suite. Et du coup, sa voiture, quelques semaines plus tard, piouf, disparue. Ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, disparue. Voilà, là, plus de voiture. Comment les voleurs ont fait ? Eh bien, les voleurs, en fait, sont passés par le phare pour voler la voiture. Et c'est là où ça devient très intéressant. En tout cas, du point de vue de notre émission et de mon point de vue personnel à moi. Donc, une voiture, vous avez sûrement déjà entendu, notamment, ça a été beaucoup évoqué avec les pénuries de composants électroniques ces derniers temps. Une voiture, c'est bourré d'électronique, même une voiture thermique. Hein. Il y a de l'électronique partout, il y a de l'électronique qui contrôle le moteur, qui contrôle tout un ensemble de systèmes sur la voiture. Et donc, tout ça est relié. Tout est relié sur un ou plusieurs réseaux, mais en gros, il y a un réseau CAN qui couvre l'ensemble de la voiture, pour simplifier. Donc, le Controller Area Network, c'est un bus. Donc, tous les composants sont reliés entre eux, et ils parlent par ce biais. Et ils peuvent communiquer, échanger des informations. C'est ce qui permet d'avoir un tableau de bord qui affiche des alertes provenant de différents composants du système, ou d'avoir la possibilité depuis le volant de contrôler certains éléments, genre contrôler ses essuie-glaces. Alors les essuie-glaces, ça passe peut-être pas systématiquement par le buscan, et encore, puisque sur certaines voitures, il y a des essuie-glaces automatiques. Donc il y a un système qui va calculer que l'essuie-glace doit se déclencher et passer la commande. Donc on retombe très facilement sur, il y a des composants électroniques qui doivent communiquer, donc buscan. Et sur les voitures les plus modernes, donc la voiture en question, je vais pas donner la marque de la voiture qui a été volée, puisque ça ne concerne pas que cette marque, c'est vraiment, toutes les voitures modernes peuvent être victimes de ce genre de problème. Ce qui s'est passé, c'est que les phares, ils sont devenus intelligents, les phares. Maintenant, c'est plus juste une lampe qu'on allume et qui éblouit la tronche de tout le monde. Maintenant, c'est des trucs qui vont automatiquement s'orienter vers l'extérieur quand on tourne pour aller vers le bon côté, pour bien montrer là où on va. J'avoue, c'est pas plus mal niveau sécurité. Qui vont automatiquement s'ajuster pour justement éviter d'éblouir les conducteurs en face. Ce genre de choses. Donc, il y a de l'intelligence, il y a de l'électronique. Il y a besoin de communiquer avec différents éléments. Par exemple, il y a besoin de communiquer avec la partie qui capte la partie qui calcule le mouvement, l'orientation de la voiture pour pouvoir réorienter les phares, ce genre de choses. Donc, les phares sont reliés sur le buscan. Les voleurs, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont allés sur la voiture, ils sont branchés sur le buscan de la voiture, et ils ont utilisé un appareil. Alors l'appareil, le mec qui s'est fait voler sa voiture, ou un chercheur ami à lui, a trouvé sur le fabuleux Dark Web, en gros il a trouvé sur Internet, il a trouvé l'appareil en question. Ça se vend pour 6000 euros, ce qui peut sembler cher, mais je rappelle qu'une voiture neuve, haut de gamme, ça vaut tout de suite beaucoup plus que 6000 euros. Donc pour des voleurs, c'est rentable au premier coup. Surtout s'ils ont l'intention de revendre les véhicules derrière. Et ça fait assez peu de dégâts sur les véhicules si c'est bien fait. Puisque c'est juste un peu de plastique à remettre. Et après, il faut juste trouver une solution pour refaire des clés. C'est pas la fin du monde. Disons, c'est pas le plus compliqué, je pense, pour des voleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'appareil en question, donc en plus qui est camouflé dans une enceinte Bluetooth, dont ils ont juste retiré le haut-parleur pour mettre un peu de matériel en plus dedans. Et donc, vous branchez, c'est branché sur le Buscan, et en fait, ça envoie des messages. Ça sature le Buscan de messages pour pas que les autres composants, je vous le simplifie, hein, pour pas que les autres composants puissent dire non, c'est bon, c'est moi qui contrôle les clés, et non, là, la clé, elle est pas là. En gros, ça envoie suffisamment de messages pour que. Ah, la voiture, là, la clé, elle a été mise, c'est bon, il faut ouvrir les portes. Et puis, c'est bon, on peut démarrer le moteur. En fait, ça envoie des messages électroniques pour dire la clé est là, on peut ouvrir, le moteur peut être démarré, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est diablement efficace. Alors, il y a des solutions techniques qui sont prévues, enfin, qui sont possibles pour ça. Et par contre, moi, si je puis me permettre 2-3 remarques supplémentaires, quand on parle maintenant de véhicules autonomes, ce genre de choses, les véhicules autonomes vont dépendre du Buscan. Ils vont l'utiliser, c'est là où ils vont passer leurs ordres. Donc déjà, avec ce genre de situation, est-ce que demain, on va pas pouvoir commencer à avoir des attaques contre des personnes assez vicelardes avec des saloperies injectées sur le Buscan pour paralyser les voitures automatiques? Par exemple. Est-ce que... On est sur un cas assez classique, finalement. Le Buscan n'a jamais été prévu pour la sécurité informatique. C'est à chaque fois, normalement, quand on met une protection, on en parlait tout à l'heure avec le chiffrement de disque dur, on se protège de quoi? Et donc là, le Buscan ne s'est jamais protégé d'un appareil malveillant. Le Buscan est censé se protéger d'un appareil défaillant, mais pas d'un appareil qui est conçu pour usurper l'identité des autres appareils sur le bus. Il y a des solutions techniques, je ne sais pas si elles vont être mises en place par les conducteurs, et là-dessus, les constructeurs de voitures sont très frileux, ils communiquent très peu sur les problèmes de sécurité informatique, puisque ça n'existe pas dans leur culture. Donc, j'avoue, je ne sais pas si on aura une suite à ça, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et apparemment, l'attaque en question commence à se répandre aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se trouve... Il y a de plus en plus de gens qui parlent de voitures volées par ce biais. Donc, j'ai hâte que ça vienne en Europe, hein, ça va être intéressant de voir ça, ou pas. Mais en tout cas, la sécurité informatique, c'est pas que les ordinateurs. Et la grosse crainte aussi, c'est si votre voiture souffre de cette faille de sécurité, à quel moment le garagiste va vous dire de passer pour faire une petite mise à jour? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas? J'en doute, c'est pas vraiment dans leur ADN. Donc c'était tout pour cette petite actualité. C'était pas une brève, celle-là, c'était une actualité complète. On va parler aussi encore un tout petit peu de vie privée et de sécurité. On va parler un petit peu de Meta, nos amis Meta, donc maison mère de Facebook. Hein. Donc désormais, lorsqu'on fera... Alors ils vont mettre à partir de... Alors je crois qu'ils l'ont déjà mis en place. Oui, ça a été mis en place cette semaine, il me semble. Parce que j'avoue, j'utilise pas ces sites-là, donc je ne suis pas au courant. Et donc, désormais, les utilisateurs européens pourront choisir d'utiliser les services de Meta sans être ciblés précisément par les publicités. Ce sera uniquement basé sur des catégories larges comme la tranche d'âge, la localisation générale, sans utiliser les données telles que les vidéos regardées, le contenu sur lequel on clique dans les applications, ceci, cela. Alors, je cite le Wall Street Journal qui a rapporté ça. Les utilisateurs qui souhaitent se désengager devront remplir un formulaire en ligne pour s'opposer à l'utilisation par Meta de leur activité dans l'application à des fins publicitaires. Et l'entreprise évaluera ensuite l'objection de l'utilisateur avant de valider et de mettre en œuvre leur modification. Donc déjà, le processus va-t-il être instantané? J'en doute. Et surtout, c'est là où c'est vicieux. Le ciblage va devenir moins précis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus pas de ciblage. Donc, c'est pas certain que ça suffise à contenter les différentes, les différentes CNIL européennes, hein, comme on dit, donc les différents régulateurs, donc là, en particulier le régulateur irlandais qui se fait taper sur les doigts par les autres régulateurs qui disent « Non, mais faut sanctionner un peu plus sérieusement, là. » Donc, à suivre, ça peut être intéressant. Sachant que Meta génère 114 milliards de dollars de recettes publicitaires et le quart vient de l'Union européenne. Donc si en Union européenne, mettons, la moitié des gens se mettaient à se dégager des publicités ciblées, ça ferait une perte de revenus assez sévère pour Meta. Donc c'est logique qu'ils souhaitent autant que possible inciter les gens, on va dire, à ne pas se désengager, hein, donc ils vont rendre ça compliqué, et puis ben, ils vont garder une forme de ciblage, mais moi j'avoue, si on pouvait voir Meta se péter la gueule, ça me ferait tellement de bien. Ça ferait vraiment plaisir. Enfin, une autre petite actualité, une petite dernière pour la route. Alors ça, c'est juste une actualité par rapport à Windows, on va parler un petit peu alors pas vraiment de sécurité, mais plus de vie privée aussi. J'ai envie de classer un peu les fake news comme étant de la sécurité, parce que les fake news sont extrêmement dangereuses pour la société entière. J'ai vu passer deux actualités. Alors c'est quelque chose que je ne connaissais pas de la part de Windows, parce que j'ai jamais utilisé de Windows supérieur à Windows. Le Windows qu'il y a dans le studio, ça doit être un Windows 7, donc j'ai pas trop utilisé de Windows plus récent que ça. Et donc, sur les Windows récents, par défaut, lorsqu'on fait l'installation au démarrage, alors a priori, surtout dans les versions anglaises, je ne sais pas pour les versions européennes, françaises, en tout cas ce que ça donne, mais aux États-Unis, on se retrouve avec des zones de l'écran qui sont remplies d'actualités, mais dignes des tabloïds. Alors là en l'occurrence, là il y a des captures d'écran qui sont données, mais c'est des trucs. C'est la moitié de l'écran rempli par des tabloïds au niveau de... Alors, je comprends pas trop où est-ce que c'est, parce que j'ai l'impression que c'est au niveau du menu démarrer sur les nouvelles versions de Windows 11, mais ça me choque de voir des publicités, enfin des articles... Pardon, c'est pas des publicités, comment on dit ça? On dit du contenu promotionnel? Non, du contenu, je sais pas. Alors là, ils disent trending news. Voilà, c'est du contenu, j'ai tendance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, on vous montre des tendances. Mais ça remplit une place folle sur l'écran, et surtout, ben dans l'eau, il y a c'est digne des tabloïds, et il y en a qui peuvent être pas loin de fake news. Et en fait, ça pose un gros problème de confiance dans l'ordinateur et dans le système d'exploitation aussi. Est-ce que vous faites confiance à... quelle est la confiance qui est accordée à la machine? Est-ce que les gens vont suffisamment avoir d'esprit critique pour se dire « Ah mince, mais là, Windows est en train de me dire n'importe quoi » ou de me mettre en avant des trucs qui sont ridicules. C'est pas normal. Et par rapport à ce comportement de Windows aussi, ce qui choque énormément, c'est qu'on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité, on ne peut pas non plus en retirer tout un ensemble d'applications qui sont installées par défaut sur les Windows récents. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas retirer. Alors, dans le menu démarrer, par exemple, il y a des liens vers WhatsApp, TikTok, Xbox, Instagram. Et c'est préinstallé. Et en fait, on ne peut pas les supprimer, on peut que les cacher du menu démarrer, apparemment. Avec un compte séparé, tout est là de retour. Je trouve ça assez grave comme choix. Alors, je sais que malheureusement, on n'a plus de moyens pour dire que c'est de la vente libre, puisque il n'y a pas forcément de gains financiers immédiats pour Microsoft. C'est juste des liens vers des applications qui sont tendances, comme on dit. Mais en fait, ça, c'est pas neutre. C'est pas du tout neutre d'afficher ça, puisque même si c'est des autres entreprises, c'est quand même la promotion d'entreprises privées. Et donc, quand demain un service concurrent voudra se développer, il va se retrouver défavorisé par rapport aux services pour lesquels les liens sont dans tous les systèmes, tous les ordinateurs du monde. Et puis, Windows, à ma connaissance, n'est pas interdit aux adolescents, aux enfants. Et donc, à des enfants, on va leur inciter d'utiliser des services comme Instagram, ou de mémoire, Instagram, il y a des messages pour dire non, il faut avoir un âge minimal pour utiliser Instagram. Ce qui est normal, c'est un réseau social, vous devez être apte à vous exprimer en votre propre nom, et avant vos 18 ans, vous avez quand même dans votre corps, normalement, le besoin, les tuteurs légaux sont les parents, enfin, par défaut, et vous créez un compte sur Facebook ou sur Instagram à 10 ans, par exemple, c'est problématique. Mais ça pose pas de problème, apparemment. On va faire une nouvelle petite coupure musicale avant une dernière série d'actualités. On va parler d'intelligence artificielle juste après, parce que j'ai pas le choix. Il y a de plus en plus de ces saloperies dans les actualités. On va s'écouter Last Loss de Peter Pumberger, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre. et campuslille.com. C'était Last Loss de Peter Pumberger, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. Vous écoutez les Gnous et c'est la troisième partie des actualités. On va parler d'actualités. Alors, à la base, je voulais faire une section diverse, mais malheureusement, j'ai trouvé que des trucs qui parlent d'intelligence artificielle. Oui, intelligence artificielle, stupidité humaine. Donc, une première pour la route, on a ChatGPT qui va être poursuivi pour... mensonge. On parlera un petit peu après. La déclinaison va porter sur l'intelligence artificielle. Je divulgage un petit peu. Mais donc ChatGPT va être poursuivi pour un mensonge parce que donc c'est en Australie. Brian Hood était un lanceur d'alerte qui a été reconnu pour son courage parce qu'il a montré un scandale mondial de de corruption liée à la banque, la National Reserve Bank d'Australie. Mais si on demande à ChatGPT, ChatGPT affirme que c'est Hood, donc Brian Hood lui-même, qui a été reconnu coupable d'avoir corrompu des officiels étrangers et d'avoir plaidé coupable sur des actes de corruption et a été condamné à de la prison. Donc cette personne qui est innocente, il n'y a rien qui... Personne ne dit qu'il est coupable. ChatGPT considère qu'il est responsable. Alors évidemment, ChatGPT, lorsqu'on va sonner sur ce truc, OpenAI, ils disent tout de suite, alors attention, des fois ça peut générer des informations incorrectes. Mais là on tombe sur le problème. Oui, mais sauf que des fois, ça veut dire que il va y avoir un mensonge noyé au milieu de tout un ensemble de vérités. Un contresens au milieu, voire même, voilà, juste un contresens au milieu d'un ensemble de vérités. Et c'est là où on va tomber sur un vrai problème. Alors, on parlera tout à l'heure de pourquoi ça arrive, et pourquoi, en fait, c'est toujours aussi débile, l'intelligence artificielle, et ça, c'est pas prêt de devenir réellement intelligent. Mais voilà, il y a une vraie inquiétude par rapport à ça. Alors, est-ce que... Moi, j'espère... que là, la personne en question, donc Brian Hood, j'espère qu'il va gagner, parce que effectivement, c'est assez grave d'avoir des logiciels qui génèrent des textes complètement faux. La technologie n'a pas à générer de la diffamation. Et là, c'était le cas. Sinon, dans les autres actualités d'intelligence artificielle, alors, une autre que j'ai trouvée aussi très rigolote. Alors... Est-ce que Wikipédia pourrait être écrit en partie ? Est-ce que des intelligences artificielles pourraient contribuer à Wikipédia ? Et donc Tim Wales y pense. J'avoue, je suis assez choqué par cette idée. Alors, ils savent pas non plus à quel point, notamment, il y a des problèmes d'hallucination de la part d'outils comme ChatGPT. Et donc là, il reconnaît qu'il y a le risque d'avoir des hallucinations de la part de ChatGPT et que, du coup, ça fasse du contenu dégueulasse dans une encyclopédie. Mais j'avoue que donner les clés d'une encyclopédie, justement, à une intelligence artificielle, ça me fait assez peur. Alors, normalement, l'idée serait peut-être d'utiliser ça pour de la correction après tout, enfin, après le passage par des humains. Mais même en correction auprès des humains, l'intelligence artificielle va pas forcément... L'intelligence artificielle, on en reparlera, ne comprendra pas clairement son erreur. En fait, les subtilités de la langue vont être très difficiles à faire réellement saisir par une intelligence artificielle. Donc, à suivre également. Et enfin, une dernière pour la route, toujours à propos de l'intelligence artificielle, allez, même deux dernières pour la route. L'Italie a décidé de bloquer ChatGPT, justement, à cause de problèmes liés à la vie privée. Parce que oui, il y a des problèmes de vie privée. Et autre élément d'ailleurs par rapport à ChatGPT, Samsung a un petit problème, c'est que des salariés ont partagé par erreur des informations confidentielles en utilisant ChatGPT. Alors, ils utilisent en fait un modèle d'intelligence artificielle comme ça pour produire du code source, sauf que ils l'ont entraîné avec du code source du code source de chez Samsung, mais du code source propriétaire, du code source fermé. Et donc, ils ont partagé aussi des notes de réunion avec ChatGPT, et du coup, oups, oh la boulette, grosse boulette. Et voilà, sauf qu'en fait, c'est clairement dit, si vous donnez des données, si vous donnez des informations, si vous donnez des éléments à ChatGPT, c'est conservé, c'est enregistré, et ça permet d'entraîner le modèle ultérieur. Et enfin, une dernière pour la route, ça c'est du côté de Meta et Microsoft. Alors Microsoft prévoit dans son Bing Chat, qui utilise l'intelligence artificielle, ils en mettent à toutes les sauces, il prévoit de mettre des publicités dedans, et du côté de Meta, c'est encore mieux, on envisage d'utiliser l'intelligence artificielle générative, on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour créer des publicités. Et ouais, il y a même plus besoin de gens pour créer des publicités. On va être dans un monde où les publicités vont être auto-générées par des intelligences artificielles. Ça va être fabuleux. Et la dernière pour la route, mais bon, je pense que vous êtes tous à peu près au courant maintenant, surtout vu la tronche des actualités donc, qu'on a eu ces dernières semaines. On remarque que depuis un an, il y a une dominance qui s'accroît de la part des entreprises par rapport aux académiciens et aux gouvernements sur le déploiement et la protection des applications d'intelligence artificielle. Oh ben ça alors, on l'avait pas vu venir. Donc c'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises souhaitent utiliser les intelligences artificielles et produisent des modèles d'intelligence, de machine learning, alors que avant c'était un rôle qui était plutôt tenu par des académiciens. Et maintenant, on est passé de la recherche théorique à la recherche réellement appliquée par des entreprises. Avec tous les défauts de type recherche de profit qui vont avec. Ça va être très très rigolo les prochaines années. Et du coup, on va continuer à parler d'intelligence artificielle juste après. On va faire une petite digitalisation sur ça parce qu'il est un peu temps de la faire, celle-là, malheureusement, même si j'avoue que c'est pas le sujet le plus simple à traiter en digitalisation à la radio. Mais ça va être l'occasion. Et donc là, pour l'instant, on va se faire une dernière coupure musicale. On va écouter Toy Soldiers de Tula, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusfile.com. On se retrouve dans quelques instants. C'était Toy Soldiers de Tula, toujours sur Radio Campus, la radio numérique terrestre et campusville.com. Vous écoutez toujours les codes et nous. Et on va se faire une petite délocalisation. Alors, ça fait à la fois longtemps que je sais qu'il y a besoin de la faire, que j'aimerais bien la faire, mais que j'ai vraiment pas envie de la faire, en fait, parce que c'est un sujet qui est très compliqué et qui est trop souvent mentionné dans les actualités avec trop de choses autour de tout ça. On va parler de l'intelligence artificielle et de tout le pataquès qu'il y a autour de ça aujourd'hui. Parce que ben, c'est devenu la mode. Alors, je ne m'explique toujours pas pourquoi, parce que personnellement, je n'ai toujours pas vu d'application réellement utile de l'intelligence artificielle, mais j'espère qu'on me donnera tort dans les prochains mois ou années, parce que ça serait bien qu'au bout d'un moment, ça serve à quelque chose plutôt qu'à faire des montages à la con ou à générer des textes stupides. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, a priori. Donc, intelligence artificielle. Tout d'abord, on va revenir sur la base. Qu'est-ce qu'on appelle une intelligence artificielle? Est-ce que... Alors, je ne vais pas donner les noms des logiciels en question, mais est-ce que... Un logiciel qui permet à un ordinateur de jouer aux échecs, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? La question est ouverte, je ne vais pas donner la réponse, même si de mon point de vue, et c'est globalement accepté comme ça, un logiciel d'échecs, les premiers logiciels d'échecs, en tout cas ceux qui ont battu, qui sont même ceux des années 90, ceux qui ont battu Kasparov, c'était pas de l'intelligence artificielle. La machine a été programmée, mais l'intelligence, c'est l'humain qui l'a apporté à la machine. C'est l'humain qui lui a dit... En fait, l'humain n'a pas dit à la machine de jouer aux échecs. L'humain, il a dit, tu fais ces calculs-là, et le résultat, ben, tu l'appliques. C'est tout. La machine n'a pas la notion de... Déjà, un ordinateur ne joue pas. Il n'y a pas de jeu. La notion de divertissement ou de compétition n'existe pas. Le but, c'est juste de trouver la bonne réponse à la question. Et donc de faire les calculs. Et l'ordinateur n'a pas appris à jouer aux échecs. L'ordinateur, on lui a dit, t'appliques ces formules mathématiques, et c'est tout. C'est marre. Je simplifie en disant formules mathématiques, hein, parce qu'il y a des stats, il y a des probas un petit peu appliquées pour les échecs, si on ne veut pas avoir une complexité algorithmique trop importante, mais on va s'épargner les détails. Donc, est-ce que, à l'époque, ce qu'on voyait comme intelligence de la part de l'ordinateur, est-ce que c'en était vraiment une? Globalement, on peut dire que non. Ce qui fait l'intelligence artificielle, c'est le fait que la machine puisse aller au-delà de ce qui lui a été programmé. En fait, on parle d'apprentissage. C'est là où on entre réellement dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque la machine devient capable de faire des choses qu'un humain n'a pas traduit lui-même en instruction machine. Et du coup, ben pour ça, comment ça marche? Alors, ça a déjà été un petit peu évoqué dans cette émission, et c'est d'ailleurs... dans le cadre de notre émission, hein, quand nous on parle de logiciels libres, on a un énorme problème. Le logiciel libre a un énorme problème avec l'intelligence artificielle, c'est que un logiciel d'intelligence artificielle libre, ça ne sert à rien. D'ailleurs, ils sont quasiment tous open source, parce que c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui est le plus important, c'est pas comment la machine va apprendre, c'est ce sur quoi elle va apprendre. C'est le corpus de données qui compte le plus. Constituer, si vous avez un excellent algorithme d'apprentissage, mais que vous ne savez pas l'alimenter avec les bonnes données, vous allez avoir un truc qui va servir à rien. C'est comme si vous aviez un porte-avions en plein Sahara, c'est mignon, hein, enfin, pour ceux qui aiment les porte-avions, mais ça sert à rien, ça va pas vous aider, ça va pas aller bien loin. Ben là, c'est pareil, si vous n'avez pas de données, votre algorithme, il va rien faire, il va décorer, ça va être mignon, c'est bien, super. Si vous avez des données et pas d'algorithme, ben en fait, c'est moins grave que des algorithmes publics qui existent. Donc vous allez juste récupérer un algorithme sur l'étagère, alors il va pas forcément être aussi bon que les algorithmes propriétaires des OpenAI ou ce genre de choses, hein, qui n'a d'open que le nom, mais voilà, vous allez quand même pouvoir exploiter un petit peu vos données. Je ne sais pas à quel point ça va être de bonne qualité, mais vous allez pouvoir aboutir à quelque chose. Maintenant, comment ça marche, cet apprentissage? Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, on a une notion de paramètre. C'est, imaginons, vous avez besoin de faire un tri dans des nombres, et puis vous ne savez pas quelle est la règle à appliquer pour le tri, ça dépend des nombres en question. Donc vous faites un programme, Alors, qui va essayer d'apprendre à reconnaître les nombres. Alors, vous allez lui donner un ensemble de paramètres. Par exemple, vous allez lui donner comme paramètre le nombre de chiffres, ou le chiffre final, ou les diviseurs, des trucs comme ça. Donc, vous allez avoir un ensemble de paramètres. Et puis ensuite, vous allez lui donner un corpus, mastoc, hein, vous lui donnez 1 million de nombres, en lui disant, alors ce nombre-là, eh ben, lui, il est bien, ce nombre-là, il est pas bien, celui-là, il est pas bien, celui-là, il est bien, etc. Vous allez lui donner tout un ensemble de nombres. Et le système, il va passer ça dans sa moulinette, il va dire, eh ben, je remarque que les nombres qui sont bien, eh ben, en fait, ils se terminent par 0 ou 5, et dans leur diviseur, il y a 5. Voilà. Donc j'ai appris ça. La probabilité pour qu'un nombre soit bien, elle est de 1 s'il se termine par 0 ou 5, et elle est de 1 si dans ses diviseurs il y a 5. Par contre, elle est de 0,5 si est divisible par 10. Et en fait, derrière, quand vous allez lui donner un autre nombre, vous allez lui donner 42, il va dire ça finit pas par 0,5, c'est pas divisible par 5, donc non, ça c'est pas un des nombres que je vais identifier. Vous n'aurez pas appris à la machine à identifier un nombre divisible par 5. Vous lui aurez appris à reconnaître un nombre, et avec son corpus, le nombre qu'elle reconnaîtra, c'est un nombre divisible par 5. J'espère que c'était assez clair, puisque on était encore sur... Alors, je vais pas aller plus loin dans les techniques d'apprentissage, notamment sur les modèles par rapport à la langue, parce que eux sont assez compliqués. Et puis, j'avoue, j'ai pas eu le temps de chercher... lire ce genre de document et d'apprendre tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et j'avoue, j'ai pas la motivation parce que ces sujets-là ne me passionnent pas outre mesure. Mais voilà, vous avez l'idée. En fait, on a un modèle qui fournit un ensemble de paramètres. Enfin, on est capable d'extraire des paramètres d'un corpus de données. Et ensuite, en réalimentant avec des données, on va pouvoir appliquer ce qui a été reconnu dans les données à d'autres données. C'est l'idée de base de la plupart des intelligences artificielles. Alors, il y a des intelligences artificielles génératives, donc qui vont créer du contenu, ça se passe un peu sur la même idée. Après, il y a d'autres éléments par rapport à ça, hein. Je vais juste effleurer. Maintenant, on va partir un petit peu plus sur ChatGPT. Parce que c'est lui qui a fait la une de la plupart des journaux, et là voilà, on a encore eu plein d'actualités autour de tout ça. Et je voudrais revenir un petit peu sur cette petite bête étrange, parce que les gens disent, oh, on a un ordinateur qui comprend la langue, un ordinateur qui sait parler. Mais en fait, non, il ne sait pas parler. Il y a une vidéo sur YouTube de Defecator qui est très intéressante sur ce sujet, par contre c'est un bien plus long format, hein, mais je vous invite à la regarder. Et notamment, il utilise, c'est une expérience qui est assez connue, enfin c'est une expérience de pensée, hein. Imaginons que vous soyez enfermé dans une pièce avec un corpus immense de textes en chinois, et vous avez un temps infini pour les compulser. Alors, vous n'avez aucune idée de ce que ça dit, vous ne savez pas parler chinois. Vous ne savez pas, vous n'y arrivez pas. Mais voilà, vous pouvez tout éplucher et tout regarder et retenir juste les symboles et voir quels symboles sont mis ensemble, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça dit. Et puis un jour, on vous passe un mot sous la porte, écrit en chinois, et vous décidez de répondre. Et pour répondre, ben, du coup, vous basez un petit peu sur les symboles que vous avez sur ce mot, et puis vous retrouvez dans votre corpus de texte, vous trouvez des passages qui réutilisent ces mêmes symboles, et du coup, vous allez recopier ça, rassembler des morceaux comme ça et les glisser sous la porte en réponse. La personne qui est de l'autre côté de la porte va croire que vous parlez chinois. Alors que pas du tout. Vous y connaissez rien. Vous n'avez pas la moindre idée du message qui vous a été donné. Vous n'avez pas le sens, vous échappe complètement. Et au final, les outils comme ChatGPT n'ont pas la notion de sens. Si vous demandez à ChatGPT ce qu'est une table, table, c'est une structure plane avec des pieds en dessous. Mais c'est quoi une table? Quelle est la définition d'une... Enfin, concrètement, vous pouvez, enfin, n'importe qui ici, je peux se représenter ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Mais la notion même de cet objet n'existe pas pour un outil comme ChatGPT. ChatGPT n'a pas de notion concrète. Il va juste exploiter du texte et faire des approximations, des estimations par rapport au contexte de tout ce qu'on lui aura donné comme source d'apprentissage pour dire « je déduis ceci ». Là, on avait l'exemple de ChatGPT attaqué pour mensonge. Ben, ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle a déduit de tous les articles qui parlaient de la corruption et donc de Brian Hood, et ben, il a associé le nom Brian Hood à cette affaire de corruption. Mais ce qui a été enregistré, c'est que dans une affaire comme ça, on parle beaucoup de Brian Hood. Et lorsqu'on cherche dans des affaires comme ça, enfin, ça fait un lien de culpabilité. Je ne sais pas comment le modèle est abouti à ça. C'est juste des questions de probabilité et des questions de données d'apprentissage. Hein. C'est rien d'autre. Et on parlait aussi tout à l'heure d'hallucination. Ben c'est des fois, il va y avoir du remplissage qui va être fait et qui va être complètement délirant, qui va être juste une hallucination. Un exemple qui avait été donné par Defecator avec ChatGPT à nouveau, c'est que Edith Cresson avait été indiquée comme ayant été présidente de la France. Parce que c'était associé, c'est bon, c'est dans le corpus, le nom a été mélangé avec les autres, il en a déduit qu'elle avait été présidente de la France. En fait, les intelligences artificielles, ça ne veut rien dire. Son texte n'a pas de sens pour elle, pour l'intelligence artificielle. Il n'y a pas les concepts, ça n'existe pas. On n'en est pas encore là, très loin de là, parce que pour que le cerveau comprenne tous les concepts, tout ce qui se passe, là, moi, je suis dans le studio pour comprendre le monde qui m'entoure, les objets qui sont décomposés en différents éléments, en boutons, j'ai une console avec une centaine de boutons devant moi, etc. Mais il y a des tas de concepts qu'on a réussi à intégrer dès notre plus jeune âge, et qui font que notre cerveau est extrêmement puissant sur ça. On accumule beaucoup d'éléments sans s'en rendre compte, parce qu'on a une notion de concept dans la tête. Et l'intelligence artificielle est loin d'avoir ça. Alors, avec des milliards de paramètres, on va finir par avoir des intelligences artificielles qui seront largement plus inefficaces que le cerveau humain en termes de compacité et d'efficacité énergétique. Parce que ça, on n'en a même pas parlé. L'efficacité énergétique des intelligences artificielles, c'est du n'importe quoi. C'est des calculs à mort pour du vent. Mais c'est l'avenir, apparemment. Et au final, l'intelligence artificielle, ça reste extrêmement con et ça peut déraper pour pas grand-chose. Quelque chose qu'on se dit souvent, qu'on imagine souvent, c'est lorsqu'une intelligence artificielle reconnaît par exemple un panneau de circulation, il suffit d'un post-it bien placé pour que le panneau devienne complètement autre chose. Parce que l'intelligence artificielle, d'un coup, il va y avoir ce point qui va dévier de son modèle et elle va abandonner. Parce que elle va pas comprendre, elle peut pas comprendre ce que c'est le panneau. Elle aura juste appris à reconnaître des formes à peu près. Et ça va se péter la gueule. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça reste particulièrement. Je pense que je vais arrêter là pour cette déclinaison. C'est assez compliqué les déclinations tout seul sans personne pour reprendre derrière. Donc merci d'avoir écouté ce 250e numéro de Décodez-nous. On se retrouve à deux cette fois-ci dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Là, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Et bonne soirée à tous sur Radio Campus 106.6. Bye bye.
Le livre n'est pas une jungle.